Encore ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu, frères et sœurs. Et puis nous allons poursuivre dans ce psaume 23. Je vous assure, je remonte à quelques semaines. Je ne savais pas que le Saint-Esprit allait nous conduire à prendre verset par verset ce psaume ô combien connu. Je l'ai dit la dernière fois. Je pense que c'est peut-être même l'un des psaumes les plus connus des 150 psaumes que nous a laissé le Seigneur Jésus. On va lire le psaume donc 23 et cette fois-ci le verset 4. Et nous allons lire ensemble ce qu'il est écrit, juste un verset. Cela sera suffisant pour nous ce matin. Je profite pour saluer mon frère Rivolzi, voilà, de l'église de Marignane. C'est l'un des anciens là-bas. Il a décidé de nous visiter aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Sois le bienvenu, mon frère. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Que dire de plus ? On est comblé, ça fait depuis 2-3 dimanches que nous sommes là à suivre les déclarations de notre ami David, puisqu'avant d'être roi, je l'ai déjà dit, il a été berger. Et il a cru bon de pouvoir identifier notre Dieu à ce divin berger qui prend soin de nous en tellement de choses. C'est extraordinaire. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, à partir du verset 4, donc à partir de ce verset qu'on vient de lire ce matin, David nous invite à entrer dans un autre registre. Jusqu'à maintenant, les versets 2 et 3, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, David utilise le pronom « il ». Il nous fait marcher vers les verts et gras pâturages. Il nous conduit vers les eaux paisibles. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Et puis, à partir du verset 4, il nous invite à entrer dans une nouvelle dimension avec lui. Il ne s'adresse plus à une tierce personne. Il s'adresse directement à Dieu. Il rentre dans une véritable prière à partir du verset 24 jusqu'à la fin. Et il utilise le pronom personnel « je » ou bien « tu ». Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il exprime ce besoin d'entrer dans cette intimité. Finalement, on rentre dans l'intimité même de David. Il s'adresse à Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est bon de pouvoir personnaliser les bienfaits du Seigneur. Lorsqu'on élève la voix, qu'on le loue comme ce matin, il est bon de dire « Seigneur, tu me fais ceci, tu me fais cela, je te loue, je te rends grâce. » Commençons par ce qu'il a dit dans une première partie de ce verset « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Quelquefois, le berger pourra mener ses brebis vers les verts pâturages qui quelquefois se trouvent en hauteur, au niveau des montagnes. Il faut qu'il passe par différentes vallées. Et dans ces vallées, il y a beaucoup de bénédictions, c'est vrai. Il y a les cours d'eau, généralement, l'eau est en abondance. Mais quand même, le troupeau a besoin de se resserrer. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des bêtes féroces et qui sont là, prêts à pouvoir sauter sous le troupeau et peut-être même en emporter quelques-unes. Et bien sûr, le berger redouble de vigilance. Mais ce n'est pas si évident que cela. Et pour nous, chrétiens, bien sûr, la vallée de l'ombre de la mort nous parle évidemment de souffrance, peut-être de malheur, mais mieux encore, il nous parle de deuil. D'ailleurs, ce verset 4, bien souvent, on l'utilise pour apporter une pensée, une parole à l'adresse des familles qui sont endeuillées. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est difficile de vivre le deuil. C'est une souffrance, j'ai envie de dire, indescriptible, un déchirement irréversible. On est là, on est peiné parce que quelque part un être cher vient de nous quitter. Et cette souffrance, cette épreuve, on ne peut que la vivre lorsque justement on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Soyons honnêtes ce matin, je pense que personne ne désire traverser une telle vallée. C'est un endroit que l'on redoute. Car quelque part, Dieu nous a créés ainsi, on est attaché à la vie, on aime la vie. Un homme ou une femme normalement constituée aime la vie. Est-ce que vous aimez la vie ? Et puis elle est belle la vie avec Jésus. Et c'est vrai, on peut être même chrétien, mais face à la mort, on, On est si petit, si faible. Mais je note au passage que Jésus, lui, eh bien, il a accepté de traverser la sombre vallée. Il me fallait le dire. Volontairement, par amour pour nous, il a accepté de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Quand il a accepté non seulement la flagellation, oui, les crachats, les coups de poing qu'il a reçus, mais mieux encore, quand il a accepté eh bien, de laisser son sang couler sur le bois infâme. Il a souffert, le Seigneur Jésus. Il a même donné sa vie. Il a littéralement traversé la vallée de l'ombre de la mort. C'est ce que nous sommes venus réaliser au travers de ce culte ce matin. J'ai envie de dire, le culte, il ne sert pas bien à demander au Seigneur. Il sert avant tout à bien pouvoir lui rendre grâce. Et comme on a entendu ce merveilleux don spirituel ce matin, eh bien, il nous invite à pouvoir nous réjouir. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Non seulement le pardon de nos péchés, mais alléluia, eh bien, tout ce dont on a besoin pour être pleinement épanoui dans cette vie. Quel amour Jésus m'a aimé. Quand j'y pense, souvent les larmes coulent à travers mes yeux. Parce que si on veut être honnête, on ne lui rend pas toujours cette reconnaissance. On s'habitue même à la parole de Dieu. Certains même négligent eh bien d'écouter la parole de Dieu. Mais on connaît ces choses. Gardons-nous de nous habituer à écouter la parole de Dieu. Gardons-nous effectivement d'oublier combien eh bien Dieu dans son amour a quitté son ciel de gloire au travers de son fils Jésus, a marché parmi les hommes pour finalement mourir à la croix. Béni soit Dieu, que Dieu soit glorifié. Il y a un vieux cantique, j'ai mis là sur mes notes, vous le connaissez. Ce chant, il dit « Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour, amour de Jésus sur la croix. Vaste autant que les eaux, céans, profond, plus que les mers, et haut, plus haut que l'azur des cieux. » Pourtant, si on revient à cette fameuse vallée de l'ombre de la mort, il faut aussi qu'on soit honnête, nous devrons tous un jour eh bien, la traverser, cette fameuse vallée. Alors soit au travers peut-être du deuil d'un de nos proches, d'un ami cher, peut-être même un membre de notre famille, ou soit peut-être nous-mêmes, nous serons appelés, si le Seigneur n'est pas revenu, à pouvoir traverser cette vallée eh bien, de la mort. Mais ce qu'il faut retenir encore ce matin, c'est que le Seigneur nous fait une promesse. Notre bon berger nous rappelle qu'il sera constamment avec nous, eh bien dans toutes les circonstances de notre vie. On peut dire amen à cela. C'est une réalité. Il est avec nous, eh bien au jour, de manière particulière au jour où on a dit « Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur ». Et depuis, il ne nous a jamais quittés. Ce serait se laisser mentir ou laisser le diable nous mentir, eh bien de penser qu'à un moment donné, il nous aurait abandonnés, c'est impossible, parce qu'il est fidèle à ses promesses. Et à plus forte raison, lorsque nous traversons eh bien la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur, notre bon berger, il est là. Dieu est constamment avec ceux qui lui appartiennent chaque jour de leur vie. Et sa seule présence avec nous est suffisante pour apaiser nos cœurs, pour nous apporter la paix, pour nous éloigner eh bien, de toute forme de frayeur. C'est pour ça que eh bien, le psalmiste David va dire « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, frères et sœurs? On n'a rien à craindre. On peut dormir, excusez-moi l'expression, sur nos deux oreilles. Moïse, un jour, a dit à ce jeune soldat, Josué, ce jeune guerrier, et il lui a dit cette vérité que j'aimerais eh bien, placer devant vos yeux, Deutéronome, chapitre 31, verset 8. Un verset que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, mais c'est peut-être pour quelqu'un ce matin, Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Et parce qu'on est humain, il peut savoir, il peut se faire eh bien, que nous vivions certaines frayeurs du présent, des circonstances qui nous entourent, mais peut-être frayeur quant à l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir ? Mon frère, ma sœur, Dieu te dit qu'il marchera lui-même devant toi, tel un bon berger. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Retiens ces paroles parce que c'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Il faut aussi faire cette remarque, toujours en parlant de la vallée de l'ombre de la mort, et en tout cas en parlant des déclarations du psalmiste David, il faut noter qu'il est question de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, et pas d'y rester. David va dire « quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Donc il y a une idée de mouvement. Il ne s'agit pas de s'éterniser dans la vallée, parce que ce n'est pas une finalité en soi. Et malheureusement, quelques brebis atteintes peut-être par la souffrance, par la difficulté, quelques brebis blessées peuvent se retrouver là encore, emprisonnées, j'ai envie de dire, dans cette vallée de l'ombre de la mort. Et je voudrais vous dire de la part du Seigneur, c'est le moment pour toi, mon frère, ma sœur, de pouvoir te relever. Excuse-moi l'expression, de te relever de tes cendres. Le Seigneur a laissé là le troupeau en lieu sûr pour venir te chercher, parce qu'il est le bon berger. Et il te dit, sors de cette tristesse. Et c'est étonnant, ce matin, il a été fait beaucoup mention de la joie. Dieu veut te porter sur ses épaules et te mener, alléluia, beaucoup plus loin. Il a des projets, il a des plans pour toi. Et son plan n'était pas que tu restes dans cette vallée de terreur. Voilà notre définition de cette vallée de l'ombre de la mort. Il faut que tu te relèves. Il faut que tu laisses peut-être même le Seigneur guérir ces blessures qui sont là au plus profond de ton cœur. Vous savez, on peut être chrétien après plusieurs années de conversion, être blessé au plus profond de nous-mêmes, porter des souffrances, des deuils intérieurs que seul Dieu connaît et qu'on n'a pas du tout envie de partager avec quiconque. Mais le Seigneur, il est là, le bon berger. Et si tu le laisses faire, il sera, eh bien, comme on l'a vu dimanche dernier, restaurer ton âme. Il sera te rafraîchir, mais de l'intérieur. Mieux encore, il sera te porter, alléluia, sur ses bras et te donner à aller plus loin. Il connaît les projets, les plans qu'il a formés sur ta vie. Il sait où il veut te mener. C'était un passage obligé, certes, mais il n'était pas question, bien pour lui, que tu puisses rester dans cet endroit. Il veut t'emmener plus haut, dans les hauteurs des montagnes. Il veut te donner à vivre des choses extraordinaires. Mais puisses-tu, aujourd'hui, te laisser toucher par le Seigneur, on y reviendra. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et puis David, il continue et il parle maintenant de la houlette et le bâton du bon berger. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et la houlette et le bâton font partie de, quelque part, l'équipement basique du berger. Même certains bergers utilisent le bâton et la houlette comme un seul et même instrument. Mais en tout cas, ce sont là les deux instruments, les deux équipements basiques du berger. Alors, on va commencer par la houlette. Parlons de la houlette. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une houlette ? À quoi elle ressemble ? Et ce long bâton, là où il y a donc en bout du bâton une extrémité qui a en forme de, qui a une forme de, oui, de crochet. Pour plusieurs fonctions que j'aimerais vous exposer. La houlette du berger donc a multiples fonctions. Je voudrais juste vous en citer quelques-unes. Par exemple, le berger se sert de sa houlette pour diriger les brebis. Alors le berger, il est là, un peu devant le troupeau, quelquefois à côté, derrière. Et puis quand il voit une petite brebis qui aurait tendance à pouvoir tergiverser ou commencer à s'écarter du troupeau, vous, avec la houlette, des petits tapotements sur le flanc de l'animal suffira pour le ramener dans le troupeau. Il le fait avec une dextérité. On dit souvent que la houlette est le prolongement du bras du berger. C'est beau, hein ? Et il fait beaucoup de choses avec cette houlette. La houlette du berger, effectivement, ramène au sein du troupeau la brebis qui s'est égarée. Puis, il la prend et puis la ramène, alléluia, au sein du troupeau. La houlette sert aussi à secourir la brebis qui est tombée dans l'eau ou dans une crevasse. Quelquefois, la main du berger n'est pas assez suffisante. Donc, il prend avec sa houlette, il récupère sa brebis parce qu'il ne veut en perdre aucune. La houlette du berger nous parle bien évidemment de l'action conjointe, tant de la parole de Dieu que celle du Saint-Esprit. Il faut les deux. La parole est là pour nous diriger, rectifier le tir. Et si on vient s'écarter, eh bien, elle nous ramène. Il y a ce passage que j'aime beaucoup dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et 17. Il nous est dit la chose suivante. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, premièrement, pour convaincre, pour corriger, mais aussi pour instruire dans la justice. » C'est pour ça que nous ne pouvons pas tergiverser ce matin et nous ne pouvons pas avoir d'autres livres que la parole de Dieu, car cette parole est capable de nous produire déjà ces quatre verbes. Et il les précisait au verset 17, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Mais que dire de l'action du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit? Nous sommes des gens de la Pentecôte et nous croyons eh bien, à la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et aussi Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un vent, il n'est pas du tout un vent, c'est juste une image eh bien, qu'on donne. Il est oui, représenté par le vent. Celui qui a bien saisi, c'est environ 120 qui étaient dans cette chambre haute. Mais plus que cela, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et j'aime à le dire, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et le Saint-Esprit nous a été donné par le Seigneur Jésus. Quand il est remonté au ciel, eh bien, il a accompli sa promesse. Il a envoyé pour nous la personne du Saint-Esprit, qui serait avec nous, mais qui serait en nous et d'une manière éternelle, pour nous conduire, pour nous inspirer, pour nous convaincre aussi. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et je prie Dieu qu'il soit présent pendant ce temps de jeûne. On peut passer des jours et des jours devant le Seigneur, mais si le Saint-Esprit n'est pas au rendez-vous, ce sera rien, ce sera religieux. Mais on veut vraiment des convictions de péché, on veut vraiment que le Saint-Esprit travaille au plus profond de nous-mêmes. Il est l'autre consolateur sur lequel on peut s'appuyer et on a besoin de l'action du Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous diriger eh bien, dans la voie droite, pour nous aider à témoigner de Jésus. C'est le psalmiste David encore qui va dire, psaume 143, verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, et que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Il n'avait pas toute la connaissance que nous avons actuellement, mais David avait pris conscience de l'importance d'avoir l'Esprit de Dieu. Il le dira d'ailleurs au psaume 51, « Ne me retire pas ton bon esprit. » Il est conscient que sans l'Esprit de Dieu, eh bien, il aura tendance à pouvoir tergiverser et s'écarter eh bien, du sûr et bon chemin, c'est-à-dire Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Alors la houlette du berger, je l'ai dit, a plusieurs fonctions. Il y a une autre fonction que je pourrais vous citer. Eh bien, elle sert aussi à compter et puis à examiner les différentes brebis. Le berger, à un moment donné, il fait entrer son troupeau dans une sorte d'enclos, dans un bercail. Et il en profite pour les compter au passage. Les brebis, elles passent, tac. Et il les poinçonne, il les compte. Et puis après, quand il a fini de faire entrer effectivement tout son troupeau, le berger commence à les inspecter. Vous savez, l'œil du berger est un œil avisé. Et il a très vite fait de repérer la brebis qui peut-être pourrait boiter. Ou celle qui pourrait être malade. Ou même celle qui peut être blessée. Alors à l'aide de sa houlette, je vous ai dit, cette houlette se termine avec une forme de crochet. Il attrape sa brebis, généralement par l'une des pattes arrière. Et il a une telle dextérité, et donc il arrive à très rapidement donc l'attraper, et puis après commencer à prodiguer ses soins. C'est extraordinaire que vous voyez ça. J'ai regardé un reportage sur qui traitait sur les bergers et leurs troupeaux. C'est extraordinaire de voir ça. Et ils le font avec une telle facilité. Et à un moment donné, ils ont interviewé le berger, et le berger a avoué qu'il y a quand même quelques brebis qui sont récalcitrantes. Quand ils le sentent, hein. Quand ils voient le berger arriver, etc., ils savent que c'est pour elles que la houlette se dirige. Et elles ont tendance à pouvoir fuir. Mais avec une grande patience, le berger arrive, clac, à attraper la brebis en question pour finalement bien s'occuper d'elle. J'ai envie de faire un parallèle et nous inviter ce matin à nous laisser attraper, c'est peut-être pas le mot, mais nous laisser saisir par la houlette du berger. à nous laisser saisir, mais aussi soigner par le divin berger. Nous avons tous intérêt à le faire si nous voulons arriver sains et saufs à destination. D'ailleurs, une bobine qui boite ou qui serait atteint hein, bien de différentes maladies que j'avais citées la dernière fois, eh bien, à un moment donné, va finir même par périr. Il est important, il est urgent de laisser le Seigneur venir et soigner, comme il sait si bien le faire, eh bien, tout ce qui peut être maladie sur nos vies. David, eh bien, quelque part, a formulé une merveilleuse prière que nous ferions bien, nous aussi, eh bien, de pouvoir formuler devant Dieu. C'est le psaume 139, je crois que je l'ai cité dimanche dernier. En conclusion, psaume 139, versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Puisse le Seigneur nous sonder. Puisse le Seigneur nous aider à faire le point. On a besoin quelquefois de faire le point, de s'asseoir et de laisser le Saint-Esprit faire cette introspection intérieure avec nous, afin que nous puissions faire le nettoyage qu'il faut. Hier, on était quelques-uns à faire le nettoyage. Avec un frère, plusieurs frères, on a nettoyé le grenier de l'église. Bon, on a mis beaucoup de choses à l'extérieur, on a jeté beaucoup de choses. Et là, c'est extraordinaire. Je vous invite à pouvoir aller là-haut. C'est propre, c'est net. Et les personnes qui ont travaillé à cela, je vous en remercie, j'en profite. Mais c'est extraordinaire, tout est bien rangé, tout est soigneux. Oh, avant, c'était Capernaum, c'était le fouillis là-haut. Mais il y avait besoin de faire un peu de nettoyage. Et je crois que même après des années de conversion, on a besoin eh bien, de reconsidérer, de refaire ces nettoyages de printemps, ces nettoyages, eh bien, pourquoi pas aussi de rentrer. Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. On voit si facilement les défauts des autres. Or, Jésus a dit, mais pourquoi considères-tu la paille qui pourrait se trouver dans l'œil, effectivement, de ton frère ou de ta sœur? Et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? On a besoin de laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs. Et le Seigneur se propose de pouvoir le faire, si, bien sûr, nous le voulons. Je prie Dieu pour que, durant ce temps de jeûne et de prière qui approche à grands pas, puisqu'il nous reste presque une semaine, nous laissions sonder par le divin berger. Il me faut terminer, je ne veux pas être long ce matin, il me faut également parler du bâton. On a parlé de la houlette, il faut aussi parler du bâton. Alors c'est clair, le bâton du berger est là pour sécuriser le troupeau. Le sécuriser par rapport à toute attaque extérieure. Et c'est ce que d'ailleurs David va expliquer au roi Saül quand à un moment donné, ce premier est venu rejoindre l'armée, toute l'armée d'Israël qui se trouvait en face de l'ennemi d'Israël, c'est-à-dire les Philistins. Et nous trouvons ce que David va dire, va rappeler au roi Saül. 1 Samuel chapitre 17, versets 34 et 35. David dit à Saül... « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Je nous pose une question. Avec quoi il frappait la bête méchante? Avec quoi il frappait le lion ou l'ours? On peut supposer avec le bâton. Il pourrait le faire avec ses poings, mais je pense que c'est plus sensé de reconnaître qu'il le faisait avec ce fameux bâton. Lorsqu'il est dit que David frappait le lion ou l'ours, c'est certainement, bien sûr, avec le bâton qu'il avait dans la main. En fait, le bâton, c'est quoi pour nous? Qu'est-ce que peut bien représenter ce bâton? Vous l'avez compris, le bâton, il n'est pas utilisé pour frapper les brebis. Il est utilisé pour frapper notre ennemi. Le bâton nous parle, et quelque part, l'image de l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité du nom de Jésus. L'autorité que renferme la puissance du nom de Jésus. C'est ce que va expliquer David aussi quand il se trouve devant le, le grand Goliath. Vous savez qu'il faisait 6 coudées de hauteur avec un empan, c'est-à-dire il faisait environ 3 mètres et quelques, 3 mètres 40 pour être un peu plus exact. 3 mètres, un colosse. D'ailleurs, il fallait qu'un autre soldat philistin puisse venir au devant de lui apporter son bouclier tellement tout ça était lourd. Une machine de guerre, excusez-moi l'expression. Et David arrive simplement, puisqu'à l'époque il était encore berger, avec son équipement. Alors on connaît David avec sa fronde, il y a même des chants qui l'expriment. Mais reconnaissons qu'à ce moment-là, David avait aussi également son bâton. Pourquoi je dis ça? Regardez avec moi 1 Samuel chapitre 17, les versets 40 à 45. Il prit en main son bâton, mais voyez, en parlant de David, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha. Certainement, chaque pas qu'il faisait résonner le sol. Et derrière, toute la foule des Philistins commençait à crier « Ouais, on va gagner !» Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, qu'est-ce qu'il fit? Il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec quoi ?»« Avec des bâtons. » Il n'a pas vu la fronde qui allait le liquider. Seigneur, il a ses stratégies. Mais il a vu surtout les bâtons qui étaient là. La fameuse houlette, le bâton, alléluia, qui est l'image de l'autorité, alléluia, du nom du Seigneur. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Oh, » ça devait résonner. Il était dans une plaine à ce moment-là. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Je le vois brandir, alléluia, ce bâton du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite, puisque eh bien, il a pris cette fameuse fronde, certainement a-t-il déposé tous ses bâtons, pris cette fronde, et puis comme c'était un bon benjamite, puisque les benjamites étaient réputés pour lancer eh bien, des pierres à l'aide de fronde de manière très exacte, il a ciblé le front eh bien, du Goliath, et ce dernier est tombé, et David, vous savez ce qui s'est passé, et a pris son épée et a coupé la tête du géant Goliath, que Dieu soit béni. C'est avec un bâton dans la main que finalement Moïse également a pu libérer tout un peuple. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Ben, avec ce bâton-là, je ferai de grandes choses. L'autorité du nom de Jésus. L'autorité de la parole de Dieu. Quand le diable est venu essayer de tenter, il dit bien essayer de tenter Jésus, Jésus avec une fermeté a dit « Retire-toi de moi, Satan !» Car il est écrit « Eh bien, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, alléluia, tu le serviras lui seul. » Et le diable est parti et a pris la vole. Le bâton du berger est donc là pour sécuriser le troupeau. Il est l'image de l'autorité et de la parole de Dieu. Son effet sur le diable et ses démons est comparable à un marteau qui vient briser le roc. Frères et sœurs, si on a la foi et si on invoque le nom de Jésus, les démons fuient. La puissance des ténèbres recule. On a un nom qui fait trembler toute la puissance des ténèbres et qui fait trembler même tout l'enfer. Est-ce que nous le croyons? C'est ça la question. Est-ce que nous le croyons de tout notre cœur? On n'a pas à avoir peur d'aucune terreur. Psaume 91 est là pour nous rappeler que tant qu'on reste sous l'abri du Très-Haut, rien ne peut nous nuire. C'est le diable qui a peur de nous. Prononcez le nom de Jésus avec force. Vous allez voir eh bien, comment même les éléments vont commencer. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il y a des personnes qui sont animées de puissances ténébreuses. Et dès qu'on parle du nom de Jésus, ils sont agités. Ils ne sont pas tranquilles. Comprenez la puissance du nom de Jésus. Jésus, il a vaincu toute chose, même la mort. Pour ça, quand il est revenu au ciel, il est revenu encore beaucoup plus glorieux. Alléluia! Tous les anges lui ont fait courbette. Il est le roi des rois et il est le seigneur des seigneurs. C'est par l'œuvre de Jésus à la croix, sur le bois de la croix, que la puissance du diable a été littéralement terrassée. Et frères et sœurs, on a besoin ce matin d'utiliser ce nom. ce précieux nom de Jésus. On a besoin d'utiliser l'autorité de la parole de Dieu pour dire à l'ennemi, stop, tu n'iras pas plus loin. Et pendant ce jeûne et prière, on est capable de prendre autorité sur peut-être des terrains que l'ennemi a pu bien prendre sur nous. Je l'ai dit, il est celui qui vient pour dérober, égorger, détruire. Il est cette bête qui est là en embuscade et qui voudrait dévorer notre joie, dévorer notre paix, dévorer nos foyers, dévorer nos familles, dévorer tout ce que Dieu a placé dans nos cœurs. Mais au nom de Jésus, nous le taillons en pièces parce que Jésus-Christ est vainqueur, parce que Jésus-Christ habite en nous, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Puissons-nous aussi, par l'autorité de la parole de Dieu, mais aussi par l'autorité du nom de Jésus, de vaincre toutes les puissances des ténèbres, frères et sœurs. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, hein. Tous ceux qui ont cru en Jésus, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ils saisiront des serpents. Et vous avez compris que ce n'est pas des serpents physiques dont il est fait mention. Laissez les serpents tranquilles. Physique, je parle. Mais il est question de serpents spirituels qui peuvent se lever comme cela, cachés, trappés, là, dans quelques recoins de nos maisons, peut-être même de nos cœurs. C'est pas pour rien, et j'y pense là maintenant, je ne l'ai pas mis sur les notes. Luc 10, verset 19, il nous est dit, on peut lire Luc chapitre 10, même à partir du verset 17, on en a bientôt terminé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Eh bien oui. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. J'allais dire quelque chose, mais je ne le dis pas. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. On y retrouve. Et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, parce que c'est la réalité, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Moi, je suis content parce que mon nom est inscrit dans les cieux. Et soyez heureux, mon frère, ma sœur. Alléluia, de ce que votre nom soit inscrit. Alléluia, dans le livre de vie de l'agneau. Je termine. Je termine juste en rappelant ce qu'on vient de partager. C'est certain, nous serons tous amenés à un moment donné à traverser la vallée de l'ombre de la mort, à moins que le Seigneur revienne. Mais s'il tarde, nous serons tous amenés à pouvoir traverser la vallée de l'ombre de la mort, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le décès d'un proche, peut-être même du conjoint, mais que ce soit également notre propre traversée dans la vallée. Sachons dire comme David, je ne craindrai rien. Parce que Dieu, même dans ces moments si difficiles à traverser, il est avec nous. Il est fidèle. On l'a chanté. Il est infiniment grand, mais il est fidèle. Dieu est fidèle. Et il a dit qu'il serait avec nous tous les jours. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et puis nous venons de voir que sa houlette et son bâton ne peut que nous rassurer. Le divin berger, la houlette, pour nous ramener quand on a besoin de rectifier le tir. Mais aussi son bâton. Alléluia, pour nous rappeler l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Dieu écartera tous nos ennemis et nous donnera à être plus que vainqueurs. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à comprendre ces choses ce matin et à nous réjouir d'avoir un si bon berger que notre Père Céleste, notre Dieu merveilleux. Prions ensemble le Seigneur.